Oui. Ceci étant dit, nous passons au point 2, de l'autre au primitif, humaniser la vision de l'autre. Alors, au XVIIIe siècle, une mutation dans la conception de l'homme s'est donc opérée par rapport au siècle précédent. Les philosophes, les naturalistes et les savants ont forgé peu à peu une nouvelle vision de l'humanité qui s'accorde sur les points suivants. D'abord, il n'existe qu'un seul genre humain. On est d'accord là-dessus. Ils se mettent d'accord là-dessus, comme quoi il n'existe qu'un seul genre humain, différent de tout le reste du genre animal. On ne croit plus vraiment en ces êtres hybrides, mi-homme, mi-bête, dont seuls, dont seule la littérature populaire pouvait en rendre véritablement compte. Hein. Donc les sauvages sont considérés comme des êtres humains à part entière, s'ils n'ont pas atteint le stade... Même s'ils n'ont pas atteint le stade de la civilisation, ce sont des êtres humains à part entière. Les caractéristiques de l'humain sont, on est d'accord aussi là-dessus, les caractéristiques de l'humain sont la pensée, la technique, la vie en société. Dès l'instant qu'on rassemble ces caractéristiques, on est considéré comme un humain. Alors, si on débat pour savoir si l'homme est avant tout un être doté de passion ou de raison, et si sa pensée est le produit de sens ou d'une intelligence, eh bien, toutes les définitions de l'humain qui vont être données veulent tout simplement accréditer l'idée selon laquelle il existe des hommes partout où tous ce sont des humains. D'un point de vue scientifique, cela est aussi vérifié. Alors, le deuxième aspect issu, de la rencontre de ces intellectuels au XVIIIe siècle est le fait de reconnaître qu'au sein de l'espèce humaine, il existe une variété de races. Je dis race entre guillemets puisque la race au sens sociologique n'existe pas. C'est une construction de l'homme. Hein. Donc il existe une variété de races différentes et distinctes selon leurs facultés habituelles, plutôt leurs facultés et leurs habiletés, je veux dire, leur dignité. On s'accorde aussi à admettre qu'il existe des degrés de civilisation entre les sauvages, les civilisés, en passant par les barbares, naturellement. Le mot civilisation va prendre de l'ampleur, va se développer, et ce surtout à l'époque des Lumières. Alors, pour certains penseurs comme Jean-Jacques Rousseau, les sauvages sont bons. Ils sont bons et libres, et c'est la civilisation qui apporte l'asservissement. Hein. Alors, à la fin du XVIIIe siècle, ce discours sur le bon sauvage va s'estomper. L'idée d'une évolution qui se fait graduellement est accréditée, c'est-à-dire qu'on va passer de la sauvagerie passant par la barbarie, on va partir de la sauvagerie passant par la barbarie pour arriver à la civilisation. Et puis l'idée des races va dominer tout le long va dominer l'anthropologie tout le long du XIXe siècle. Cette idée-là va aussi s'imposer. Elle va s'imposer en cette fin du XVIIIe siècle. Enfin, va émerger le projet d'une nouvelle science de l'homme. On voit émerger le projet d'une nouvelle science de l'homme. C'est quoi cette nouvelle science de l'homme? Eh bien, c'est l'anthropologie ou l'ethnologie. Bon. L'anthropologie va naître. Hein, elle est en train de naître et est investie. Dans sa naissance, je veux dire, elle est investie d'une mission. C'est quoi cette mission? Eh bien, la mission qui lui est investie est celle de penser l'homme dans sa globalité, et dans sa diversité. Alors pour cela, il va falloir qu'elle se mette, il va falloir qu'elle mette en place des méthodes. Mais ces méthodes devront être différentes de celles d'autres disciplines, notamment de la sociologie qui est sa sœur, je dois dire, entre guillemets. Ces méthodes, la comparaison va être, au milieu ou au cœur de ces méthodes. La comparaison entre cultures, j'entends. Hein. Comparaison entre cultures, l'observation aussi, hein, comme nous l'avons vu d'ailleurs dans notre introduction. Alors, elle commence à élaborer ses théories, les théories générales de l'homme, les théories de la formation de la culture. Elle va disposer aussi déjà d'un riche matériau de données collectées sur toute la surface du monde. Mais ça, nous y reviendrons un peu plus tard. Alors, j'ajoute aussi, ce qui n'est pas négligeable, c'est que comme mode particulier de connaissance de l'homme, je dis bien, comme mode particulier de connaissance de l'homme, l'anthropologie ou l'ethnologie ne pouvait naître, à l'instar de ce qui s'est fait dans d'autres disciplines, qu'à partir des faits soigneusement recueillis, recoupés, puis classés. Donc, recueillir les faits, les recouper, puis les classer. Pourquoi les faits soigneusement recueillis, recoupés, puis classés? Eh bien, parce que les anthropologues vont aller partout dans le monde. Ils vont aller dans le monde. Ils vont faire des investigations. Ils vont rapporter une information. Mais cette information, dans sa diversité, va être confrontée. Ceux qui sont allés en Asie, ceux qui sont allés en Afrique, ceux qui sont allés dans d'autres continents, eh bien, ils reviennent, puisqu'il s'agit de peuples primitifs, ils reviennent, eh bien, on recoupe cette information. Et ensuite, on classe. Là, on a mis en place une connaissance. Mais ça n'est pas tout. Si le recueil des faits dépend de la qualité de l'observateur, ou tout simplement de l'anthropologue, du chercheur, eh bien, il va falloir tenir compte de l'accueil que cette information recevra dans le public. Oui, parce que le public a été habitué par les navigateurs, les non-spécialistes, à être abreuvé d'une certaine information, d'une information orientée. Mais dès l'instant que des individus formés, des ethnologues, des chercheurs, vont venir avec une information de qualité, avec une information rationnelle, objectivée, eh bien, il va falloir faire attention. Est-ce que cette information va être bien accueillie ou non par un public qui, pendant longtemps, a été orienté ou mal orienté? Donc, abusé, j'allais dire. Ainsi donc, ne partageons pas. Mais j'ai oublié de dire, ce qui n'est pas rien avant de poursuivre ce que j'allais dire. On ne peut pas tellement en vouloir à ces navigateurs. Je voulais le dire aussi, parce qu'il ne faut pas que mon propos soit considéré comme une sorte d'incrimination de ces personnages qui avaient rapporté une information quasiment erronée. Hein. Il faut dire que ces navigateurs, ces voyageurs étaient des commerçants, étaient des francs-tireurs, des individus qui allaient dans un ailleurs qu'ils ne connaissaient pas, qu'ils voulaient découvrir, mais à leur manière. Hein. Lors des missions diplomatiques, lors des commerces, des expéditions commerciales, des séjours dans des cours étrangers, en ne retenant que le superficiel. Oui, en ne retenant que le superficiel. Voilà ce qui nous permet de dire que ne partageons pas les mœurs, les us et les coutumes des populations qu'il rencontrait. N'étant pas prêt à partager les caractéristiques de ces populations, on peut bien penser que ces navigateurs ne pouvaient, à l'évidence, n'apporter qu'à leur public que cette information superficielle et erronée. Mais les choses ne s'arrêtent pas là. Le débat s'instaurant ou s'instituant, et en regardant toujours du côté du fameux primitif, dans la mesure où il ne partage pas le mode de vie du chercheur, dans la mesure où il ne partage pas la même organisation sociale que le chercheur, dans la mesure où il ne partage pas la même pensée que le chercheur, eh bien, on va le considérer comme un grand enfant. Un grand enfant qui a un chemin à parcourir et donc un primitif. Il y a quand même une évolution. Il y a une évolution depuis l'Indien qui n'a pas d'âme, depuis l'Indien qui est réduit au monde animal, hein, qui a les caractéristiques d'un animal, eh bien, il y a un chemin qui s'est fait pour arriver tout de même à la primitivité. Il est homme, on l'a accepté parmi les hommes, mais il est au stade premier. C'est un primitif. Et donc, vous comprenez bien que on est dans une tentative d'humanisation. On essaie d'humaniser celui qui, pendant longtemps, a été considéré comme étant une bête, un animal. Il est tout de même humanisé. Il est admis dans le cercle des humains.